Europe 1. Écoutez le monde changer.
15h02, bientôt 3 sur Europe 1, mais cela n'a aucune importance puisque c'est sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Effectivement, c'est sans rendez-vous chez nous. Bonjour et bienvenue pour votre émission Santé et Bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il est sur ce plateau avec moi, les yeux bien en face des trous. Aujourd'hui, on va parler des yeux, ça tombe bien, vous avez vu, je fais des petites...
Quel rapprochement, bravo.
Je mets en matière, on va dire. Bonjour Jimmy, vous allez bien?
Bonjour Mélanie, oui très bien, bonjour à toutes et à
tous. Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à la myopie de l'enfant, le trouble de la vision le plus fréquent, détecté dès le plus jeune âge. Imaginez, 25% des porteurs de lunettes âgés de 6 à 9 ans sont myopes et ils sont 60% à l'âge de 18 ans. Alors justement, savez-vous ce qu'est précisément un œil myope? Et surtout, savez-vous que l'on peut traiter ce trouble? Bien sûr, le corriger avec des lunettes classiques, mais on peut aussi ralentir son évolution avec des gouttes, des lentilles ou même des verres d'un nouveau genre. Alors pour nous en dire plus sur le sujet, nous recevrons le professeur Dominique Brémond-Gignac. Elle est chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, Jimmy nous fera un point sur l'impact de la malbouffe sur notre cerveau. Et vous allez voir, cet impact, malheureusement, il est assez rapide et il n'est pas très bon. Il va nous détailler tout ça. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons, comme tous les jours, la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de l'intimité entre les frères jumeaux.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question aujourd'hui de Johan. Écoutons-la.
Salut Mélanie, salut Jimmy. J'ai une petite question pour vous. J'ai lu que le cassis était un anti-inflammatoire naturel. Je voulais savoir si c'était vrai et du coup, comment on pouvait l'utiliser, peut-être en complément alimentaire.
Jimmy, le cassis, non, hein. On va faire autrement.
Bon, le cassis,
vous avez des
pas.
Choses à dire, vous aimez
mais
le cassis?
J'ai toujours des choses à dire, mais là, on va peut-être laisser une professionnelle
ouais,
en parler.
Ça tombe bien. On s'est tourné vers Angèle Ferremag, elle est naturopathe et chef cuisinière. Elle nous précise l'intérêt nutritionnel de cet aliment.
Les feuilles et les baies de cassis ont des propriétés anti-inflammatoires et diurétiques, mais surtout le cassis est d'une richesse inégalée en vitamine C, qui est un antioxydant qui entre notamment dans l'immunité, donc c'est assez intéressant. En ce moment, dans le cassis, on peut utiliser les baies, les feuilles et aussi en bourgeon, en gémothérapie. On peut s'en faire par exemple des infusions de feuilles de cassis. Vraiment manger les baies autant qu'on veut, ça c'est vraiment excellent pour la santé. Et puis sinon, prendre quelques gouttes de gémothérapie ou à le mettre un petit peu d'huile éventuellement dans sa cuisine.
Voilà, c'était Angèle Ferremag qui était au micro de Valentin Piovesan. Angèle qui vient aussi de sortir un livre qui va intéresser les tout jeunes parents. Ça s'appelle « La cuisine naturelle pour bébé » paru chez Marabout. Alors Jimmy, à présent, on va passer à une question qui est vraiment pour vous. Hein. C'est la deuxième question du jour, celle que nous a laissée Nathan sur notre répondeur. On écoute sa question.
Salut Jimmy, salut Mélanie. Voilà, j'ai une petite question. Je voulais savoir pourquoi on sentait particulièrement mauvais de la bouche le matin en se levant. Bonne journée, salut à tous.
Jimmy, une bonne question. Pourquoi on pue du bec le matin
voilà,
particulièrement?
Vous avez failli dire vous.
Non, mais pourquoi on?
Alors, le matin, c'est physiologique et c'est normal. Lorsque vous dormez, vous ne mangez pas. D'ailleurs, vous avez le soir une hormone qui s'appelle la leptine qui va justement provoquer la satiété. C'est pour ça qu'on va se coucher à 21h et ne pas se réveiller dans la nuit pour manger.
Vous couchez à 21h, vous?
Alors, il faudrait se lever, ouais. Il faudrait se coucher tôt. Et d'ailleurs, ceux qui vont se coucher assez tard, minuit, 1h du matin, ne vont pas fabriquer cette leptine et vont plus manger. C'est pour ça que quand on travaille de nuit, eh bien, on mange un peu plus. Sauf qu'en temps normal, on ne mange pas la nuit et on se réveille le matin, on est à jeun. Sauf que quand on est à jeun, on fabrique des corps cétoniques qui vont sentir une odeur particulière et qui vont faire qu'on va sentir un peu mauvais de la bouche. Mais normalement, après un petit déjeuner et un brossage de dents, ça rentre dans l'ordre.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, évidemment, quand on se lève au saut du lit, on a cette haleine de fenêtre. Parfois, vous avez dit petit déjeuner, brossage de dents, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas, avant de se coucher pour éviter, si on pue trop de la bouche le matin, pour prévenir un peu cette...
Alors, l'halitose, le fait d'avoir une vraie mauvaise haleine, c'est 50% de la population dans le monde occidental.
Quand même, c'est
ça
beaucoup.
Ça veut dire qu'entre vous et moi, il y en a un ou deux
c'est
qui
vous,
sont
je
mauvais.
Pense.
Bah, je pense que si les auditeurs, malheureusement, il n'y a pas encore l'olfaction à la radio... Et je pense que pour eux, c'est pas plus mal. Donc, c'est un truc qui est très fréquent.
50%.
Et dans l'immense majorité des cas, l'origine est dentaire. Elle provient d'un problème au niveau des dents. Le plus souvent, c'est lié à la plaque dentaire qui va s'accumuler. Il y a des aliments qui vont rester coincés entre les dents. Sauf que les bactéries, elles ont besoin d'un peu d'oxygène et aussi des protéines qu'on va leur déposer. Et donc, elles vont synthétiser cette plaque dentaire qui va donner cette mauvaise haleine. Et donc, dans l'immense majorité des cas, le fait d'aller voir le dentiste et de faire un détartrage en vous réapprenant à vous brosser les dents correctement, permettra de régler ce problème de mauvaise haleine.
Et si ce n'est pas les dents, est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes?
Évidemment.
Et si oui, comment on les traite?
Souvent, on oublie qu'il y a un rôle des protéines qu'on va avoir. Ceux qui vont manger beaucoup de viande, notamment quand ils vont faire de la musculation, eh bien, vont avoir de mauvaises haleines plus importantes que les autres. Le fait de consommer des boissons astringentes comme le café, l'alcool, qui vont assécher et rendre la salive moins abondante, va permettre aux bactéries de proliférer. Donc, si vous buvez beaucoup de café, à ce moment-là, il faut boire un verre d'eau pour compenser.
Je viens d'avoir une idée de génie la nuit aussi, si c'est parce qu'on a moins de salive, peut-être.
Exactement.
Aussi, qu'on plus de la bouche le
moins
matin.
Moins de salive,
c'est ça,
et donc on peut
couché,
manger. Exactement. Donc, vous pouvez aussi mâcher un chewing-gum sans sucre. Ça va stimuler les glandes salivaires. Et parfois, vous avez le droit d'avoir un problème de sinusite chronique qui va faire qu'il va y avoir un écoulement dans l'arrière-gorge et l'arrière-nez qui va donner cette mauvaise haleine. Et donc là, c'est direction l'ORL, en particulier si vous avez le nez en permanence enrhumé.
Un dernier petit point sur l'halitose. Est-ce que le fait qu'on soit masqué tout le temps en ce moment, ça peut aggraver un petit peu ce problème-là chez les gens qui sont un peu touchés par ça?
Ça va protéger surtout votre entourage. Hein, si vous avez mauvaise haleine grâce au masque, non
vive
seulement
le masque, alors,
pas de Covid, pas de virus et pas de mauvaise haleine. En revanche,
génial.
Au bout d'un certain temps, vous me l'avez dit ce matin, Mélanie,
oui.
À force de sentir votre propre odeur, eh bien, vous êtes perturbé.
C'est gratuit, ça.
C'est le temps de changer de masque et de mettre quelque chose d'un peu plus efficace, puisque malheureusement, cette odeur, vous allez la sentir. Et heureusement, moi, je suis protégé.
Très bien. Bon, ben merci Jimmy, c'était sympa. Hein, on se retrouve bientôt. Alors, si vous aussi, comme Nathan, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, place à notre invitée, c'est la professeure Dominique Brémond-Gignac, chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades, qui vient nous décrypter le trouble de la vision le plus fréquent chez les enfants, la myopie. Un sujet de la plus haute importance, vous allez voir, parce qu'on a affaire à une véritable épidémie concernant ce souci visuel. D'ici 2050, la moitié de la population mondiale pourrait bien être myope. Alors on vous dit tout sur le sujet très vite, et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir avec nous en studio aujourd'hui notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Dominique Brémond-Gignac. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, vous êtes chef du service d'ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Et avec vous, donc, on va décortiquer aujourd'hui ce qu'est la myopie de l'enfant et les solutions, bien sûr, qu'on peut proposer pour la traiter. On va y venir, mais on va commencer en reprenant les choses du début. D'abord, un œil myope, c'est quoi physiologiquement? Il se passe quoi dans l'œil de Jimmy, qui était un grand myope quand il était petit, je crois?
Alors, l'œil myope, c'est finalement un œil, il est fabriqué pour que les rayons lumineux aillent se mettre sur la rétine, c'est-à-dire à l'endroit normalement, de façon à ce que ça soit bien net, l'image soit bien nette. Et lors de la myopie, en fait, l'œil va grandir en taille, et ce qui fait que les rayons ne seront plus focalisés au bon endroit, et ce qui fait qu'on va voir flou. Donc, globalement,
c'est
un œil qui s'allonge, qui est plus long. Et donc, à ce moment-là, les rayons ne sont plus focalisés au bon endroit et la vision est floue de loin.
Et cette myopie, elle commence dès la naissance. À partir de quel âge qu'elle débute? Et puis surtout, à partir de quel âge, nous, on la découvre, les docteurs? Parce qu'il y a peut-être un fossé entre le début des signes et l'âge du diagnostic.
C'est vrai, tout à fait. Il est très important, je dirais que le dépistage est un point très important. C'est très exceptionnel d'avoir une myopie dès la naissance, parce qu'un œil...
Mais c'est possible, alors.
C'est possible, mais très exceptionnel.
D'accord.
C'est très rare, parce que l'œil de l'enfant, il est plus petit que la normale. C'est logique, hein, finalement, un bébé, il est tout petit, et donc son œil est plus petit que la normale, et il est spontanément hypermétrope. Mais en fait, ça va dépasser son but, il va grandir de façon normale, et à un moment ça va dépasser son but et il va donc s'allonger de façon plus importante que ce qu'il ne devrait, et c'est comme ça qu'il devient myope. C'est très difficile de dire à quel moment l'enfant va devenir myope, parce qu'il va y avoir des enfants qui vont devenir myope très tôt, vers 2-3 ans, et puis il y en a d'autres qui vont devenir myope plutôt vers 8-9 ans, admettons, plus tardivement. Et c'est pour ça que le dépistage des enfants, le dépistage visuel des enfants est très important chaque année, en tous les cas, pour, entre autres, dépister la myopie et puis d'autres choses, bien sûr.
Comment on voit que son enfant est myope à 2-3 ans? Il ne parle pas, il ne peut pas nous dire, en plus il ne va pas à l'école, il ne voit pas encore, enfin, à 2-3 ans, oui, mais il ne voit pas le tableau. Enfin, comment on sait qu'un petit, tout petit de 1 an et demi, 2 ans est myope parce qu'il se cogne partout? Enfin, c'est quoi les symptômes?
D'où l'intérêt d'avoir un dépistage chez l'ophtalmologiste, donc, ou éventuellement un orthoptiste qui peut déjà regarder. Mais sinon, on peut s'alerter parce qu'il peut cligner des yeux, parce qu'effectivement, il peut avoir tendance à se cogner un peu plus que la normale pour d'autres enfants. Il peut aussi rapprocher beaucoup, parfois, les objets. Il faut se poser la question. Et puis, d'autre part, il faut savoir si les parents sont myopes, parce que ça peut être aussi un facteur qui était un facteur génétique, bien sûr, ouais. génétique.
En Alors, tout cas, l'émission est consacrée à la myopie des enfants, mais un rapide mot des adultes. Est-ce qu'on peut, à 40 ans, comme Mélanie, devenir myope?
Moi, je n'ai jamais été myope, hein, mais ça pourrait m'arriver. Encore ?
Alors normalement non, puisque l'œil cesse de grandir, je dirais, chez l'adulte jeune.
Bon, comme la taille, on quoi, peut, c'est
ça,
fini.
Ça peut exister chez les gens plus âgés pour d'autres myopies qui sont d'origine cristallinienne, mais c'est très à la marge. Donc normalement, après, les adultes jeunes ont terminé leur croissance de l'œil et donc ne deviennent pas plus myopes D'accord. que ce qu'ils n'étaient.
Alors revenons justement aux petits, c'est notre sujet du jour. Si on est myope très jeune, admettons à 2 ans par exemple, est-ce que la précocité, vous disiez le dépistage il est très important, mais est-ce que le fait d'avoir dépisté ça tôt, eh ben c'est mieux pour le pronostic de cette myopie ?
Alors, c'est sûr que c'est mieux de le dépister le plus tôt possible, parce qu'on va pouvoir le traiter le plus tôt possible. Tandis que si on le prend trop tard, c'est-à-dire que si on passe à côté, en fait, l'enfant va devenir encore plus myope. C'est-à-dire que l'enfant qui est myope, non corrigé, qui ne porte pas de lunettes, va devenir encore plus myope, parce que le message qui arrive sur sa rétine n'est pas le bon, et donc il continue à augmenter sa taille. Donc ce qu'il faut, c'est absolument dépister tôt.
Est-ce qu'on sait combien il y a de myopes en France, et est-ce que c'est le trouble de la vision le plus fréquent d'ailleurs ?
Alors, c'est probablement le trouble de la vision le plus fréquent. Les anomalies réfractives sont les plus fréquentes. Et il y a à peu près aujourd'hui 30, enfin un tiers à peu près de personnes qui sont myopes déjà.
Ouais, quand même.
Évidemment, il y a d'autres endroits où c'est bien supérieur. On va en discuter de ça, bien sûr.
Quand on est myope, d'ailleurs, en général, un enfant myope, hein, diagnostiqué pour le coup, je ne sais pas, à 6-8 ans, puisque c'est la moyenne du dépistage, est-ce que d'ailleurs ils sont que myopes ou parfois on peut être myope et autre chose ?
Tout à fait, on peut être myope et astigmate, par exemple. Mais on ne peut pas être myope et hypermétrope, ça c'est antinomique, puisque l'hypermétropie, c'est un œil plus petit. Mais myope et astigmate, oui, on peut être myope et astigmate. On peut être aussi myope et amblyope, myope et strabique. Et d'où l'intérêt d'avoir un dépistage pour vraiment chercher toutes les autres pathologies qu'on pourrait soigner. Parce qu'en fait, l'intérêt de dépister, c'est de soigner tôt.
Alors, vous avez dit qu'il y avait une part importante de l'hérédité. Si les parents sont myopes, il y a plus de risques que l'enfant le soit. Mais est-ce qu'on a identifié d'autres facteurs de risque de devenir myope pour un enfant ?
Oui, on a effectivement identifié d'autres facteurs de risque. Le facteur héréditaire n'est pas du tout irrémédiable.
De parents myopes, combien de risques que l'enfant le soit ? On a des chiffres ?
On n'a pas de chiffres exacts, parce que ça va dépendre de la puissance de la myopie des parents. Donc on peut pas
mais
dire
deux patients vraiment très myopes,
Je vais
général,
vous dire une chose. Nous sommes myopes, mon mari et moi, et mon fils est hyperméthrope, mais c'est pas grave.
Ouais, donc ça,
vous
voyez, ça
peut échapper. On peut quand même échapper à l'hérédité, c'est possible. Par contre, il y a d'autres facteurs qui vont faire que la myopie est beaucoup plus fréquente. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, le temps passé à l'extérieur, le temps passé sur les écrans, tous ces points sont très importants parce qu'ils vont favoriser la myopie. Et donc, il faudra être très, très vigilant. On en discutera aussi, je suppose.
Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs éventuellement nutritionnels ? Est-ce que des enfants qui ont eu des carences nutritionnelles, ça peut avoir un impact sur leurs yeux ? Parce que je crois que pour les yeux, il y a des choses importantes, les oméga-3, enfin des choses comme
ça. Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est
que du coup, si on en a manqué dans son enfance, on peut devenir myope à cause de ça ?
Alors, il y a eu pas mal d'études, mais aucune n'a démontré réellement, de façon très scientifiquement prouvée, que le déficit en oméga-3 ou en vitamine A ou
on
n'est
pas obligé de manger des sardines pour éviter la myopie.
Voilà, pas tout de suite, mais bon, c'est plutôt pas mal. Il y a eu une étude qui avait été faite sur les maternisés avec des oméga-3 qui donnait une meilleure acuité plus tôt, mais ça n'a pas été tellement bien
solide,
démontré.
Quoi.
C'est pas vraiment très très robuste comme étude. Oui,
est-ce qu'on a identifié d'autres facteurs dans l'environnement ? Alors peut-être c'est plus du comportement qu'on pourrait avoir avec les enfants. Le fait, par exemple, de ne pas leur mettre de lunettes de soleil, d'être en permanence au soleil dans le sud.
C'est vrai, moi j'ai essayé quand ils étaient petits, mais honnêtement, elles les enlevaient tout le temps. Bah tant pis, quoi. On allait au soleil et puis elles mettaient pas de lunettes dans la poussette. Mais oui, je vois.
J'aime pas ça. Il faut absolument, il faut les protéger. Mais quand ils veulent pas porter de lunettes, ce que je peux concevoir, c'est pas toujours facile pour un enfant de porter des lunettes solaires. C'est un petit chapeau, c'est une petite casquette, c'est une petite ombrelle, j'en sais rien.
Mais le soleil, c'est nocif pour les yeux des petits.
Le soleil est par contre protecteur, au contraire, pour la myopie. Parce que, en fait, l'ambiance lumineuse extérieure est au contraire protectrice. Et on conseille vraiment de passer au moins 40 minutes, même jusqu'à 2 heures tous les jours, pour pouvoir être protecteur pour la myopie.
D'accord.
Mais par contre, il faut se protéger des UV. Et ça, d'où l'intérêt d'avoir des lunettes de soleil qui sont bien filtrantes. Donc vraiment des lunettes avec optiquement
mais quand
démontrées.
Il fait quel temps ? Parce que bon, là aujourd'hui on a une journée ensoleillée.
Une jolie journée ensoleillée.
Ouais. Mais après, là, il va vous mettre des lunettes de soleil au petit.
Vu le temps qu'il fait dehors, vous ne les mettez pas longtemps dehors, à mon avis.
Non, vrai,
parce qu'il fait un peu froid, donc je ne les vois pas tout à
mais
fait.
C'est quoi, à la plage en été, à la
plage,
évidemment.
En été et à la montagne. À la montagne, la réverbération est très importante, donc il faut absolument les protéger des UV. Mais après, quand ils vont se balader,
Donc lunettes de soleil ou casquettes.
Par ailleurs, on protège les yeux.
Alors, on va parler essentiellement de la myopie, mais vous avez dit tout à l'heure, certains sont hypermétropes. Vous avez dit votre fils d'ailleurs était hypermétrope, mais dans l'esprit des gens, c'est pas trop ce que c'est. On connaît bien la myopie, astigmate, on voit plus ou moins, mais qu'est-ce que c'est ? Comment se passe l'œil d'un enfant hypermétrope ?
Ben, l'hypermétropie, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'œil n'a pas grandi assez. Donc, en fait, il est plus petit, tout simplement. Et donc, il n'y a rien d'autre de particulier, si ce n'est que l'enfant va voir plutôt un peu plus flou, théoriquement, de près, ce qui n'est pas le cas parce qu'en fait, il a une bonne accommodation quand il est petit, mais c'est plutôt plus âgé, où il sera plus gêné.
Et il faut porter des lunettes, là aussi.
Il faut porter des lunettes, là aussi. Ça peut être aussi le cas d'avoir des strabismes induits. Donc, il faut être assez vigilant. Tout ça, c'est vraiment, ça repose sur un dépistage précis et savoir que les parents doivent penser à amener leurs enfants chez l'ophtalmologiste chaque année.
C'est très clair. Professeur Brémond Gignac, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission consacrée à la myopie de l'enfant. Et nous allons passer à un problème, je dirais même une urgence sociétale. Trop d'écrans abîment clairement, c'est prouvé, les yeux de nos enfants. Une épidémie de myopie est déjà en ordre de marche. Peut-on l'éviter ? Quels sont les bons conseils pour protéger nos petits de ce problème de vision ? On y revient très vite. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est vous, professeur Dominique Brémond-Gignac. Vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Et avec vous, donc, on s'intéresse cet après-midi à la myopie de l'enfant. On a évoqué juste avant certaines des causes de la myopie, mais il y en a une dont il faut absolument parler un peu plus en détail, c'est la surexposition aux écrans. Vous avez un petit peu amorcé ça tout à l'heure. Il n'y a plus de doute du tout là-dessus. Les écrans rendent nos enfants myopes. C'est un lien direct qui est démontré.
C'est un lien assez direct qui est démontré. C'est très difficile d'avoir des études très très robustes pour le démontrer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas d'action des écrans quand on a vu l'explosion qui s'est passée en Asie de myopie.
C'est-à-dire donc, explosion
On a jusqu'à 90% en fait, des adultes jeunes qui sont myopes en Asie. Donc on n'avait pas ça il y a 20 ans où c'était à peu près 40 à 50%. Donc les écrans, la vision de près, assez attentive, sans avoir peut-être une bonne luminance autour, font qu'il y a une myopie qui est induite et qui est évidente.
L'œil se fatigue quand il est trop près, surtout parce qu'il ne va pas assez loin, il ne regarde pas assez loin.
Il ne regarde pas assez loin, et les phénomènes accommodatifs sont soutenus, en fait. Et donc, alors on conseille aussi, difficile, hein, mais on conseille aux enfants de leur dire il faut que toutes les 10 minutes, 20 minutes, tu regardes ailleurs. Essayez.
Et loin, si possible.
Essayez. Ouais, ça commence à devenir difficile.
Et vous avez dit en plus qu'il faut qu'il y ait une bonne luminance autour. Ça veut dire regarder un écran seul dans le noir est pire que regarder la télé allumée le soir en famille, par exemple ?
Tout à fait exact. Tout à fait exact. C'est qu'en plus de tout, si vous avez une luminance ambiante qui est faible, donc vous allez avoir un contraste fort et donc l'œil va être très attiré avec une forte accommodation. Ah oui. Ça va être plus ennuyeux. Ça va induire plus de myopie, effectivement.
Est-ce qu'on connaît la dose ? Parce que c'est vrai qu'on sait toujours qu'il y a quand même une histoire de dose. Je veux dire, est-ce qu'on sait à partir de, je ne sais pas, combien d'heures de tablette, d'ordinateur, l'œil devient myope ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs, parmi tous ces écrans, parce qu'il y en a plusieurs, on a dit la télé, l'écran, le téléphone, les tablettes, est-ce qu'il y en a qui sont plus nocifs que d'autres pour nos yeux ?
Alors, on n'a pas d'études vraiment là-dessus. De façon probable, les écrans n'ont pas tout à fait le même impact. La télévision qui se passe à distance, elle est probablement moins toxique que la tablette ou surtout la petite console à laquelle on joue d'attention, sans lever les yeux de la tablette. Et on n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, en tous les cas, il n'y a pas exactement un chiffre pour dire, si l'enfant passe 3 heures, il va être très myope à cause de ça. Évidemment, ce qu'on dit, il faut absolument essayer d'être le moins possible sur les
écrans.
C'est
du bon sens, mais c'est le moins possible.
C'est du bon sens, mais c'est le moins possible. Et puis, dans notre monde confiné, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir facilement.
Et justement, avec cette période de confinement, on a passé plus de temps derrière les écrans, adultes et enfants. Est-ce que vous avez vu le nombre de myopes augmenter durant cette période ?
Alors, tout à fait. Alors, moi, je l'ai constaté, mais je ne l'ai pas constaté
pas dit
de façon...
En préparant l'émission, vous m'avez dit que ça a explosé.
Ça a explosé. Ça. Alors, voilà, ça a explosé en Asie. Il y a une étude qui est sortie, justement, sur plus de 120 000 enfants. Donc, c'est quand même une énorme étude. Et qui a démontré qu'il y avait eu une augmentation majeure de la myopie pendant le confinement. Moi, je l'ai observé à beaucoup plus petite échelle, je dirais, à l'hôpital, dans ma consultation. Ouais. Mais je ne peux pas le prouver, parce qu'il faut des très grands chiffres pour prouver cela. Mais c'est évident que les enfants ont augmenté leur myopie pendant le confinement, probablement pour deux raisons. Un, plus d'écran, probablement à cause de l'école, de ce qui est demandé.
L'école à la maison aussi.
Et l'école à la maison, il fallait bien sûr regarder des visios, des choses comme ça. Et d'autre part, parce qu'ils ne sont pas sortis à la lumière du jour. Donc ça fait deux facteurs aggravant de la myopie.
C'est vrai que c'est difficile, vous dites, hein, surtout dans le monde actuel, avec le contexte actuel, n'en parlons pas, de leur dire moins d'écran. Mais en tout cas, un truc sur lequel on peut miser, nous parents, c'est de dire sortez-les le plus possible. Qu'ils fassent mauvais, qu'ils fassent beau, une petite balade dehors, ça fera du bien à leurs yeux aussi, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ouais. En les protégeant quand même du soleil, s'il y a beaucoup de soleil.
Oui, on a compris, l'année
c'est compliqué.
Soleil, on n'oublie pas, dehors, mais sans le soleil.
Alors, la myopie, c'est pas forcément une fatalité. Heureusement, ça se prend en charge et correctement. Mais un enfant myope à 6 ans, par exemple, ça va peut-être évoluer, mais on sait dans quel degré ça va évoluer, quelle chance il aura d'avoir une myopie plus importante. Est-ce que les enfants évoluent tous au même rythme ?
Alors, heureusement, les enfants n'évoluent pas tous au même rythme. Et puis, ce n'est pas une fatalité, puisque je vais vous expliquer qu'il y a quand même, heureusement, des solutions. Ça, c'est quand même sympa. Mais ce qui est sûr, c'est que plus l'enfant est myope jeune, pire, évidemment, est son évolution, parce que de toutes les façons, l'enfant va grandir, donc obligatoirement, son œil va grandir en même temps.
Et la myopie avec,
et
va s'aggraver.
Et la myopie avec, va s'aggraver, tout à fait.
Et on est d'accord, une myopie, une fois qu'on a diagnostiqué un enfant myope, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Un enfant myope, il le restera toujours, ça ne peut pas régresser. Ça n'arrive jamais.
Non, ça ne peut pas régresser, vous ne pouvez pas rétrécir.
Ah non,
un enfant qui fait 1m70, vous pouvez lui demander de faire 1m60 une semaine après.
Oui,
c'est
donc
pas
l'œil
ne
va pas rétrécir.
On ne peut pas rétrécir.
Et on doit contrôler la vue d'un enfant myope tous les combien de temps ? Est-ce qu'il y a un rythme particulier où on doit attendre qu'un enfant se plaigne de sa vue pour l'amener voir chez l'ophtalmo ou le traîner chez l'ophtalmo?
Traîner, non, mais on n'est pas si méchant que ça quand même.
C'est pas très gentil.
On n'est pas si méchant quand même. On essaye au contraire d'être plutôt gentil avec eux.
Ils préfèrent venir chez vous qu'aller se faire soigner une carie
en général. Je pense quand même. On n'est pas si méchant. Ils n'aiment pas tellement les gouttes, mais bon. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un contrôle annuel, quoi qu'il arrive, chez un ophtalmo. Il faut faire absolument un contrôle annuel avec des gouttes cycloplégiantes pour vérifier ça.
Alors qu'est-ce que c'est que les gouttes cycloplégiantes ? C'est des trucs qui vont dilater...
Ça va dilater la pupille, mais ça va aussi la bloquer de façon à mesurer exactement quelle est la
tous
réfraction.
Tous les enfants doivent passer par là ?
Tous les enfants doivent passer par là, au moins une fois, initialement.
C'est pour ça que je vais vous parler d'autre chose. Enfin, ça vous concerne, ça concerne l'ophtalmologie, mais il y a beaucoup de centres d'ophtalmologie avec plusieurs ophtalmos à l'intérieur, on ne citera pas de nom, mais qui poussent un peu comme des champignons. Et là, pour le coup, alors qu'on a du mal d'habitude d'avoir des rendez-vous chez l'ophtalmo, là, on en trouve très facilement. Toutes les 10 minutes, ils ont des créneaux. Enfin, c'est assez incroyable quand on regarde sur certaines plateformes. Dans ces grands centres d'ophtalmos, il y a de la place. Mais alors, ça vaut quoi, du coup, un dépistage pour un enfant dans ce
alors,
genre de
centre ? D'abord, tous ne sont probablement pas équivalents. Ils ont un énorme avantage, c'est qu'ils vont vous donner accès à une consultation d'ophtalmologie rapide.
Moi, j'ai fait
que
ça. Mon fils, il n'a pas eu de goutte, par exemple, de ce que vous venez
voilà.
de dire.
Il faut surveiller la qualité derrière. Donc ça, c'est très important de surveiller la qualité.
Quand on est un patient, un papa, un maman, qu'on n'est pas un professionnel, comment est-ce qu'on s'assure de la qualité ? Un, les gouttes, c'est un bon élément. Un ophtalmo, qui, pour la première fois qu'il voit un enfant qui ne met pas de goutte,
c'est pas bon.
Mais est-ce qu'on a d'autres éléments qui peuvent nous dire, est-ce qu'on a plutôt intérêt à avoir l'ophtalmo de ville de proximité, c'est un peu comme les commerçants, j'ai quelqu'un qu'on connaît, plutôt que d'aller dans ces gros centres d'abattage, sans évidemment faire d'amalgame.
Il y en a sûrement des bons.
Il y en a sûrement de très bons, évidemment.
Non, je pense que vous avez raison, je pense qu'il vaut mieux aller voir, en tous les cas, il vaut mieux aller voir un ophtalmologiste qui est quand même assez spécialisé en ophtalmologie pédiatrique, qui va prendre du temps pour voir avec l'enfant,
oui, parce
de
que
faire
moi, la
lire.
La consultation, elle a duré 2 minutes 30, c'est déjà un mauvais indicateur.
C'est court quand même. Qui pourra prendre le temps de le dilater, en général, ça prend à peu près 45 minutes, une heure, alors de le dilater sur une semaine quand ils sont vraiment petits, et ensuite de prescrire les verres adaptés si on a besoin. Mais en tous les cas, il faut garder cette qualité parce que c'est vraiment très important. Et ensuite, faire un contrôle tous les ans. Et si on découvre une myopie, au départ, il faut le contrôler plutôt tous les 6 mois.
Ah oui, parce qu'elle peut aller vite,
Elle
myopie.
Elle peut aller vite, exactement.
Et donc, il faut changer de verre assez rapidement. Justement, question pratique, puisque ça ne se guérit pas, vous l'avez dit, un enfant myope, il va avoir besoin forcément de lunettes pour corriger. Là, on ne parle pas encore de traitement. D'ailleurs, il vaut mieux l'équiper tout de suite, je ne sais pas, un petit de 1 an et demi, par exemple. Est-ce que c'est si grave si on ne lui met pas des lunettes tout de suite ?
Alors, c'est grave, effectivement. Dès qu'on dépiste la myopie, il faut la soigner complètement tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut mettre des verres correcteurs. Parce que, comme je vous disais, si on ne les corrige pas, en fait, ils vont augmenter leur myopie parce qu'ils ne sont pas corrigés, ils ont cette image floue qui va leur donner un faux message et l'œil va continuer à grandir. Donc impératif, une myopie dépistée, quand elle est vraiment bien dépistée, sous cycloplégique, c'est-à-dire avec ses gouttes, il faudra à ce moment-là la corriger.
Mais si on décide de ne pas la corriger, quel risque on encourt à ne pas traiter une myopie, à part un enfant qui ne voit pas bien de loin,
ce qui n'est pas terrible, mais
est-ce qu'on peut imaginer d'autres complications?
Bien sûr. Alors déjà, ça n'aide pas les apprentissages. Ne pas bien voir de loin, ça ne va pas l'aider quand même à l'école. Mais d'autre part, le point important, c'est qu'à chaque fois qu'on devient de plus en plus myope, il y a des risques quand même, des risques rétiniens, des risques glaucome, de cataracte qui vont éventuellement se déclencher à l'âge adulte. Donc chaque dioptrie qu'on va gagner est un gain pour l'enfant, pour ensuite son avenir.
Tous les autres parents d'enfants auront compris, les lunettes c'est très bien. Raymond Gignac, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
On revient très vite avec cette émission consacrée à la myopie de l'enfant. Et à présent, on va parler d'une nouveauté justement. La myopie, jusque-là, on pouvait ralentir son évolution grâce à des gouttes ou des lentilles, on va vous expliquer. Mais depuis un an, de nouveaux verres sont sur le marché. Des verres qui permettent de freiner en moyenne de 60% l'évolution de la myopie de l'enfant. Une petite révolution qu'on vous détaille juste après un peu de musique. C'est Camélia Jordana, ça s'appelle Facile.
Je me laisse, je fais facile, je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante, quand de haut en bas Satan, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense, toi tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Oui, toi, tu crois. Comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne de montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS.
C'était la chanteuse Camélia Jordana sur Europe 1 avec Facile. Camélia Jordana qui sera l'invitée ce soir de l'émission Musique en session acoustique, une émission présentée à 20h par Émilie Mazoyer.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, professeur Dominique Brémond-Gignac. Vous êtes chef du service ophtalmologie à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades à Paris. Et donc avec vous, on décrypte ce qu'est vraiment la myopie de l'enfant et ses traitements. Parce que oui, on ne peut pas guérir de la myopie, on l'a dit, mais on peut, quand elle est évolutive, la freiner avec plusieurs outils. D'abord, les gens ne le savaient peut-être pas, hein, mais il y a des gouttes. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Tout à fait. Il y a des gouttes toutes simples qui sont de l'atropine qui est très faiblement dosés, qui peuvent se mettre une goutte par jour et qui vont donner une bonne freination effectivement de la myopie de l'enfant.
Ça existe depuis longtemps, enfin c'est pas...
Ça existe depuis longtemps, mais faiblement dosé, c'est quand même un peu plus récent, mais ça donne d'assez bons résultats. Il faut simplement s'astreindre à mettre des gouttes tous les jours à l'enfant.
Tous les jours et pendant combien de temps? Enfin, toute la vie, on s'arrête? Est-ce qu'on se dit, on se laisse 6 mois avant que ça marche?
Alors là, quand on y part, on y part pour au moins 2 ans en général, et pas moins, et puis parfois c'est bien plus que ça, parce que ça dépend de l'âge auquel vous commencez la mise en place des gouttes.
Et on peut espérer quelle efficacité, juste parce que c'est un truc que j'avais jamais entendu parler. Hein.
Vous-même qui avez été un enfant myope, on ne vous a jamais proposé ça.
Ouais. On m'a dit, mais mets des lunettes, et j'étais très content déjà d'avoir des lunettes.
C'est ça.
Mais même si je n'avais pas une très belle tête avec, mais ça c'est un autre débat. Mais donc c'est un truc qui peut vraiment marcher chez
ça enfants. Fonctionne très bien, même si vous étiez très jeune. Vous êtes toujours très jeune, mais c'est relativement récent, donc c'est normal que vous n'ayez pas eu cette proposition.
Désolé, Jimmy.
Sûrement très jeune. Mais...
Professeur Brémond-Gignac, juste parce qu'on est sur les gouttes, oui. Alors on ne parle pas des mêmes, mais on a une question d'auditeur de Thibaut Normand qui nous demande sur les gouttes dont on parlait tout à l'heure pour dépister la myopie chez les petits-enfants la première fois. Donc, examen indispensable à passer, il faut dilater avec des gouttes. Les gouttes cyclopédantes, vous avez dit, est-ce que c'est la même chose que le fond de l'œil?
Alors, cycloplégiante, en fait, ça va bloquer l'accommodation, et quand on met des gouttes, ça va dilater aussi. Dilater, ça va permettre de faire le fond d'œil, mais cycloplégiante en plus, c'est celles qui vont permettre de voir la réfraction exacte.
D'accord.
Donc, c'est un peu différent.
Alors, pour freiner la myopie, il y a aussi des lentilles qui permettent aussi de freiner cette myopie. Je dois avouer que même ça, je n'avais jamais entendu parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche?
Alors, 2 types de lentilles. Soit des lentilles jetables journalières, ça c'est relativement récent, avec des systèmes qui sont défocalisants en moyenne périphérie, un petit peu comme le verre correcteur MioSmart dont on va parler juste après. Et puis, des lentilles que l'on peut porter la nuit, l'orthokératologie, qui sont
des lentilles rigides.
Lentilles rigides. La nuit, c'est un petit peu plus dur pour les enfants. Il faut des enfants quand même un petit peu plus âgés aussi, qui vont permettre de ne pas porter de lunettes la journée.
Parce qu'elles vont
ça va aplatir la cornée, ça va permettre effectivement de réduire la myopie.
Ça existe depuis un petit moment déjà.
Depuis longtemps. Il n'y a pas d'études complètement robustes sur l'orthokératologie, mais de façon nette, ça marche.
D'accord. Alors, pour freiner l'évolution d'une myopie, donc, on vient de parler des gouttes et des deux sortes de lentilles. Est-ce que ces trois méthodes-là, on va dire, sont prises en charge par la Sécurité sociale? Comment ça se passe?
Alors, les collyres sont prises en charge par la Sécurité sociale et les lentilles de contact, c'est surtout essentiellement par les mutuelles que ça peut être pris en charge, mais pas tout à fait directement.
On va passer au verre révolutionnaire dont on parle depuis le début, mais juste avant, un petit mot quand même sur les interventions, parce qu'on sait qu'à l'âge adulte, on peut opérer de la myopie, et puis Jimmy le sait, hein, parce qu'il en est sorti indemne avec des yeux nickel.
À ce stade, grâce à vous, je ne vais plus rien voir en sortant de l'émission, merci. Je prends beaucoup à l'œil, mais là, merci Mélanie, je vois plus rien.
Chez les enfants, ça ne se fait pas, ça, par contre.
Pour les enfants, c'est vraiment pas... On ne peut pas imaginer de corriger quelque chose qui devrait, par contre, augmenter avec l'âge de l'enfant, ça n'irait pas.
Donc, attendons que ce soit stabilisé.
Alors, on va passer à ces verres nouvelle génération. Moi, j'appelle ça vraiment une révolution, parce que je trouve ça extraordinaire. Elles sont disponibles depuis 1 an, ça permet de freiner la myopie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche?
Très intéressant, effectivement, et très innovant. Ces verres MioSmart, c'est un système qui s'appelle DIMS, qui est en fait un système de défocalisation hypermétropique de la moyenne périphérie de la rétine. Vous imaginez comme c'est compliqué.
Là, on
n'a
pas tout compris, mais expliquez-nous.
Je hoche la tête, mais naïvement.
C'est un peu compliqué. Au centre, l'enfant va regarder tout à fait avec le verre classique de sa myopie. Par contre, en moyenne périphérique, donc sur les côtés, évidemment, je pourrais peut-être même vous le montrer.
Il y a une caméra,
pour ceux qui veulent regarder. En fait, il y a des toutes petites alvéoles qui sont autour, en fait, de ce verre. Bon, c'est très très difficile à voir, hein, parce que vraiment, je veux bien vous le passer, si vous arrivez à le voir, c'est pas mal.
Mais en tous les cas, on ne voit pas grand-chose,
effectivement. Et ce petit système extrêmement innovant, le petit système d'alvéole, va permettre de donner un signal à la rétine qui va être différent, de façon à ce que, justement, l'œil ne continue pas à grandir. Et donc, c'est vraiment très, très innovant parce qu'il y a une étude qui a été faite, qui est extrêmement robuste, justement, et qui a permis de montrer que ça freinait de 60% la longueur axiale de l'œil, donc l'allongement de l'œil, et que ça freinait de 59% la myopie. Globalement, 60%. Ouais. Ça freine, attention, ça n'arrête pas, bien entendu, vous avez bien compris ça.
D'accord. Mais c'est quand même extraordinaire de se dire qu'avec un simple verre, la myopie qui est liée au fait qu'on a un œil plus long, on va empêcher la croissance
de s'allonger encore,
mais de façon quasiment naturelle, parce qu'un enfant va porter des lunettes de toute façon. Donc il est un truc classique où ces verres, que je considère vraiment
extraordinaire. On voit pas la différence, on est d'accord, quand on porte ses lunettes avec ses verres spéciaux, ses verres nouvelle génération, on n'a pas un enfant qui a des culs de bouteille à la place des lunettes. En fait, ça ressemble à la même chose que des verres classiques. On
absolument,
est d'accord, c'est la technologie à l'intérieur qui est différente.
La technologie à l'intérieur est différente, mais c'est comme des verres classiques sur une paire de lunettes classiques, et les enfants s'y adaptent très bien. On a un petit questionnaire pour vérifier évidemment qu'ils s'y adaptent. On est en train de faire à Necker une étude justement pour vérifier
aussi,
que
CHU,
nous aussi on a les mêmes résultats, en tout cas des résultats
similaires. Parce que vous voyez pour l'instant, les enfants sont contents.
On en est content, mais tant que les études ne sont pas terminées, on peut jamais donner les résultats à l'avance, puisque ça fait un an maintenant.
Et à partir de quel âge il faudrait équiper les enfants de ces verres ?
Alors,
pas trop tôt,
quand même, parce que si vous voulez, des enfants qui vont avoir des lunettes qui bougent un peu, vous voyez l'enfant
à
de 2 ans un peu
ouais.
turbulent, c'est pas logique. À partir de 4 ans, raisonnablement, je pense qu'on peut les adapter, jusqu'à l'âge de 16-18 ans, de toutes les
parce
façons.
Parce qu'il faut qu'elles restent bien en place. Quoi,
il faut qu'elles soient bien centrées. On ne peut pas se permettre d'imaginer que tout d'un coup, la lunette, elle soit de traviole ou un peu de guingois, parce que l'enfant...
Donc 4 ans, c'est raisonnable. Quoi.
4 ans, c'est raisonnable.
Et comment est-ce qu'on les trouve, du coup, ces verres ? Parce que du coup, je pense que...
Tous les opticiens ont ça ? Enfin, comment ça se passe ?
Alors, tous les opticiens formés ont ça. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec des réseaux d'opticiens qui sont motivés, qui sont formés pour, parce que c'est un centrage particulier. Il ne faut pas se tromper non plus sur la monture qu'on va choisir pour avoir suffisamment de largeur de verre.
D'accord. Et du point de vue quand même financier, on va peut-être pas donner le prix, je sais pas si vous l'avez, mais en tout cas, est-ce que c'est beaucoup plus cher ? Parce que là, on parle de technologie, d'un truc, Jimmy le dit, lui-même, il trouve ça révolutionnaire. Est-ce que c'est beaucoup, beaucoup plus cher ? Souvent, la révolution, ça a un coût, hein. C'est très, très cher.
Alors,
ou pas ?
Ça a quand même un coût, bien entendu, mais très honnêtement, je pense que c'est fait pour que ça soit tout à fait abordable. Et quand on a une bonne mutuelle, je pense que c'est relativement pris en charge.
Par rapport à des lunettes classiques, il faut compter combien de plus en moyenne ?
Je ne peux pas vous répondre, puisque ça va dépendre, en fait,
des opticiens. C'est pas 3 000 euros de plus, quoi.
Non, pas du tout. Et c'est nettement moins cher qu'un verre, par exemple, progressif. Donc, sincèrement, c'est tout à fait abordable. Mmh. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de parler de la prise en charge des verres.
Alors, pour conclure, vous avez dit qu'il y avait une épidémie de myopes et qu'en 2050, 50% de la population sera myope. Est-ce qu'on peut, au quotidien, faire des petits trucs pour essayer de limiter cette épidémie ?
Ben, tout à fait. Non, on sait
on va
cette projection.
Dit, quoi,
on va reprendre. On va reprendre tous les points parce que je pense qu'on peut justement éviter ça. La première chose, c'est essayer de faire que les enfants soient le plus possible à l'extérieur, que ça soit 40 minutes, 2 heures par jour, 2 heures, je pense que c'est un peu beaucoup. Mais...
Alors, à l'extérieur, pas à lire un livre sur un banc, à l'extérieur,
voilà,
à
l'extérieur,
la
aller se balader la nature. Voilà, exactement, tout à fait. Deuxième chose, réduire au maximum le temps des écrans. Si on ne peut pas les réduire complètement, ce que je conçois parfaitement, leur demander de lire, de les voir à distance, avec un bon entourage lumineux. Essayer aussi d'avoir moins de temps d'attention sans avoir de temps de relaxation,
de
faire des pauses et de lever les yeux. Je pense que déjà, ces points-là, c'est important. Et puis ensuite, tous les systèmes de freination, c'est fait pour.
Et venir vous voir en consultation.
Régulièrement.
Voilà.
Allez. Très bien. Merci beaucoup, professeur Brémond Gignac, de nous avoir accompagnés cet après-midi. Merci pour toutes ces précisions, pardon, et bonne continuation.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Jimmy va nous faire un point sur l'impact de la malbouffe sur notre cerveau. Et vous allez voir, cet impact, malheureusement, il est assez rapide, il n'est pas très bon. Il va nous détailler tout ça et surtout nous donnera, bien sûr, ses meilleurs conseils pour limiter les dégâts. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi avec Jimmy, bien sûr. Il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Focus sur l'impact de la malbouffe sur notre cerveau. Savez-vous si le fait de manger un jour sur deux des pizzas, des frites, des burgers, des kebabs a vraiment une influence sur autre chose que notre balance ? À partir de combien de repas de ce type, d'ailleurs, peut-on avoir des conséquences sur notre cerveau et nos comportements ? Eh bien, notre reporter Valentin Piovesan a été vous questionner sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
La malbouffe, c'est mal manger et pas équilibré, c'est-à-dire trop gras ou trop sucré ou pas assez de fruits, de légumes.
Ça représente un des problèmes qu'il ne faut pas prendre à la légère, je pense.
Ça, on le sait, mais forcément, on continue parce que c'est pas cher, c'est rapide, c'est bon. Mais oui, ça pourrait avoir des répercussions sur la santé.
Ça peut entraîner une fatigue musculaire ou osseuse. Ça peut aussi engendrer beaucoup de fatigue.
Tout ce qui est problème d'obésité ou problème artériel et tout ça, forcément, ça a des impacts sur la santé. Et je pense qu'il y a un nombre assez conséquent de gens qui meurent à cause de ça.
Je pense pas que la malbouffe ait une répercussion sur le cerveau, sur le corps, oui, mais sur le cerveau, ça ne me dit pas.
Ça peut avoir des répercussions sur notre peau, sur le physique, sur l'intérieur, ça peut avoir des répercussions sur le cerveau aussi.
Ça nous rend un peu plus lent, je pense. Ça nous empêche un peu de penser.
Que ça soit sur le plan physique, sportif et même psychologique, en fait, de manger tout le temps de la malbouffe, la mauvaise santé, du coup, on est plus faible.
Jimmy, la malbouffe, ça vous connaît. Enfin, vous avez arrêté, je crois. Hein. Ça y est, vous êtes un repenti du kebab. Alors, on va reprendre du début. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est attiré par la malbouffe ? Faut dire ce qui est, hein, ce qui est gras, sucré, salé, ça nous fait vachement saliver. Donc, pourquoi ?
Eh oui, c'est naturel. On est attiré vers les calories, tout ce qui va être appétissant. Et forcément, les asperges, le chou-fleur, c'est un
ça
peu moins.
Ça quand même. Hein,
et ouais. On s'est intéressé notamment à ça chez des souris. On leur a proposé deux types de régimes, soit de manger quelque chose de sain et équilibré comme d'habitude, ou de manger des trucs hyper sucrés, hyper gras, hyper salés.
Et naturellement, elles sont comme nous, les souris.
Exactement, elles vont vers le gras, le sucré et le salé. Sauf qu'on oublie que ça peut avoir un véritable impact, pas simplement sur sa santé, mais aussi sur nos comportements.
Est-ce que, du coup, ça peut vraiment avoir un impact, mais de quelle façon, surtout ?
Alors, on s'est intéressé notamment à ça chez la femme enceinte. Et c'est assez extraordinaire, c'est pour dire aussi aux femmes enceintes de faire attention.
Des souris et des femmes enceintes pour tester les trucs.
Et oui, de faire attention à leur alimentation. Parce que souvent, on a tendance à dire que pour avoir un bébé en bonne santé, il faut bien manger.
Manger pour deux, ouais.
Exactement.
C'est faux,
c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais on s'est rendu compte que la maman qui est enceinte, qui va consommer des produits ultra transformés, industrialisés, de la malbouffe, eh bien, ça va avoir un impact sur l'enfant qui va à naître, notamment dans son comportement. Ça donne, dans les 5 premières années de la vie, un enfant qui est un peu plus agité, un peu plus colérique, un peu plus capricieux. Ça veut dire qu'on va changer le comportement des enfants au travers de l'alimentation de la maman, sans la culpabiliser. C'est peut-être une prise de conscience qu'on doit tous avoir.
Est-ce que, alors on sait que les ados et les jeunes, en général, consomment pas mal de fast-food. À partir de quand, cela peut-il avoir vraiment un impact sur leur cerveau?
Alors, c'est une étude australienne qui est très intéressante. On a proposé à des jeunes adolescents en bonne santé deux choses. Soit de manger de façon équilibrée.
Du chou-fleur et des radis.
Exactement. Ouais. Soit d'aller vers un régime fast-food que certains ont tendance à faire pour des raisons économiques. Un kebab, c'est beaucoup de calories,
ouais,
pour pas très cher.
Cuisiner, honnêtement, ça coûte moins cher, en réalité.
Et oui, mais bon, quand
ils s'en rendent pas compte. Ouais, ils savent pas cuisiner, surtout.
Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a évalué ensuite leur capacité intellectuelle, leur mémoire, la concentration. Et bien, au bout de 4 jours simplement d'un régime hamburger, on s'est rendu compte qu'ils avaient une baisse de leur attention, une baisse des troubles, des apprentissages et de la mémoire. Pourquoi ? Ça perturbait l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone du cerveau responsable de la mémorisation. Là, je vous parle simplement de 4 jours d'hamburger. Alors imaginez des semaines, des mois, voire des années de ce type d'alimentation. Évidemment que c'est un impact pour notre cerveau.
Bon, vous nous conseillez quoi ? Radis et chou-fleur pour tout le monde à volonté ? Alors, c'est un peu ennuyeux quand même.
C'est vrai que c'est ennuyeux.
Bon,
c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est plutôt que de supprimer, essayer de rajouter des bonnes choses. On parle souvent des brocolis, de la pomme bio qui est riche en pectine. D'essayer d'éviter au maximum les produits ultra transformés, c'est ceux-là qui vous poseront problème.
Une petite pizza par mois, c'est pas bien
grave.
Pourquoi pas ?
Si vous voulez faire un steak avec des frites, faites-le. Vous le faites maison si vous avez évidemment la possibilité. Mais attention aux préparations industrielles. C'est vraiment un argument santé pour le futur proche, un peu moins proche. C'est un capital santé pour l'avenir.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions et ces conseils.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, ce sera juste après un peu de musique et de la bonne avec The Jouber Singers, Stand on the World. Bieber Singers sur Europe 1 et leur titre, leur tube même, qui était sorti en 2012 déjà, Stand on the World.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va prendre la question de Lucas. On l'écoute.
Je suis hyper proche avec mon frère jumeau. On se dit quasiment tout, mais nos aventures sexuelles, elles restent quand même assez taboues. Je pense que mon frère est gay. Est-ce que je dois lui en parler ?
Catherine, entre frères jumeaux, est-ce que d'abord, ce qu'il dit, ils ont l'air assez fusionnels comme beaucoup de jumeaux. Enfin, c'est ce qu'on entend quand on les pend. On ignore bien ce qui se passe dans des couples de jumeaux comme ça, mais il dit que leur sexualité reste quelque chose de tabou et notamment il s'interroge sur l'éventuelle homosexualité de son frère. C'est pas un sujet comme un autre, la sexualité, même entre des jumeaux, quoi.
Non, mais de toute façon, il n'y aurait pas de sujet. Enfin, la sexualité n'est pas un sujet comme un autre. Et après, certains pourront parler de sexualité, mais pas d'amour. Ça pourrait être plutôt le sentiment amoureux qui est plus intime. En tout cas, je trouve ça plutôt intéressant que des jumeaux qui auraient tendance à tout partager, fusionner, de par une histoire utérine de fusion, s'approprient leur propre histoire et leur propre cheminement, puisque la réalité, c'est qu'ils ne sont pas siamois. Ils sont jumeaux, certes, mais pas siamois.
Ça veut dire qu'on peut être proche sans pour autant parler de sexualité et à l'inverse, ne pas être proche de quelqu'un et réussir à parler de sexualité ?
Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on est proche de quelqu'un, on a besoin de s'identifier, d'exister par soi-même, même si on est proche. Et donc, du coup, il y a des sujets que l'on garde de côté. C'est la même chose des enfants vis-à-vis des parents, ou même dans un couple. On ne partage pas tout au sein du couple, parce qu'il y a des choses qui sont notre petit jardin secret, qui nous permettent de déterminer que nous nous appartenons. Et à l'inverse, il y a des gens de qui nous ne sommes pas proches, et nous permettons de dire des choses intimes parce que justement, comme ils sont loin, on n'est pas confronté au regard permanent avec cette personne à qui on s'est livré, qu'on a senti digne de confiance.
Là, au-delà du fait qu'ils ne se parlent pas trop de leur aventure sexuelle, ils s'interrogent surtout sur la sexualité, alors homosexuelle ou hétérosexuelle de son frère. Peut-être parce qu'il a peur tout simplement qu'il souffre, qu'il n'ose pas lui en parler, et veut lui dire soit à l'aise avec ça. Je pense qu'il y a peut-être plus cette question autour de l'homosexualité qui le questionne, en tout cas, c'est ça ?
Bon, je crois que ça, c'est une question qui n'est pas liée au fait d'être jumeau. L'inquiétude de savoir si...
Non, mais juste d'être sûr que son frère va bien. Quoi,
voilà, donc on n'en parle pas, on ne parle pas de notre sexualité. Et je me demande s'il ne m'en parle pas parce qu'il aurait quelque chose de particulier à savoir.
C'est un peu ça qu'on
savoir.
Entend dans la question, mais je ne sais pas, peut-être
voilà.
qu'on se trompe.
Ouais. Mais encore une fois, faut-il en parler ou pas ? Je crois que la première des choses, c'est de dire on ne se parle jamais de notre sexualité. Et peut-être que c'est bien comme ça. Si tu avais envie d'en parler ou si tu avais des sujets sur lesquels tu étais inquiet, je suis ton frère et tu sais que je t'aime. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller demander à l'autre de se révéler dans sa sexualité, dans son regard sur la sexualité, dans sa façon d'envisager sa sexualité, mais on peut se dire qu'on le sent en difficulté ou on le sent timide, ou on s'en est jamais parlé alors qu'on se parle de tout, alors peut-être qu'il y a un sujet, mais s'il n'y a pas de sujet, chacun fait sa vie. Vous voyez, comme ça, ça ouvre le champ,
comme ça,
voilà, le champ
ouverte,
des possibles,
quoi,
parce que ce n'est pas une maladie d'être homosexuel, donc liberté, liberté chérie.
Mais justement, ça pourrait faire de lui un allié, peut-être que s'il y a bien une personne à qui il faut en parler, c'est peut-être son frère jumeau, avant peut-être même les parents, on a peut-être une relation un peu plus fusionnelle avec, par définition, le jumeau que même un ami, donc c'est peut-être une épaule sur laquelle il peut s'appuyer si besoin, en fait, peut-être qu'il n'en a absolument pas le besoin d'ailleurs.
Oui, après ça pose la question aussi de, est-ce que c'est sur celui qui serait homosexuel que c'est pour qui c'est le plus compliqué, ou est-ce que celui qui pose la question peut être inquiet, parce que étant fusionnel avec son frère, qu'il soit en désir d'homme, ça peut compliquer la
réceptivité aussi, peut-être,
ou la réceptivité du sujet. Donc c'est encore une fois, je crois que c'est pas lié au fait d'être jumeau, mais je crois qu'il y a des sujets où on doit accepter que son jumeau ne nous appartient pas, et que donc ce jumeau a une vie, une vision de la vie très différente. Là, on est sur le sujet de la sexualité parce que c'est notre chronique, mais ça pourrait être sur des tas d'autres sujets.
Bien sûr.
Et c'est pas parce que il y a des choses qui m'échappent de mon frère.
Mais c'est étonnant parce qu'on pourrait imaginer qu'il est peut-être un peu timide, son frère, mais il dit on se dit tout, sauf ça. On parle pas de ça. Pourquoi ce sujet-là est si tabou entre eux ?
Mais c'est aussi vrai chez des amis. Hein. Vous avez des amis, ils se disent tout, absolument tout, mais pas le sujet de la sexualité.
Mmh. Bah oui, Mélanie, avec vos amis, vous parlez.
Non, pas tout, non, c'est vrai, mais j'ai pas de jumeaux, moi, hein, donc...
Non, et puis c'est pas parce qu'on est jumeaux, encore une fois, qu'on est le même corps, donc il y a des jumeaux qui n'ont de cesse que de vouloir enfin respirer par eux-mêmes, de leur
moyen
côté.
D'avoir une petite indépendance, au moins
bien
sur
sûr,
ce sujet-là.
Bien
quoi.
Sûr, parce que c'est très anxiogène d'avoir le sentiment que l'autre est une moitié de soi, puisqu'après, de toute façon, même s'il a une sexualité, il va partir avec quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne se parle pas de sexualité, parce que c'est parler aussi d'élan dans
séparer,
un extérieur et qui va les séparer. Donc, de fait, ils font comme s'il n'y avait pas ces agents de séparation pour rester fusionnels. Donc, ils n'abordent pas le sujet de la sexualité pour ne pas remettre en question cette dite fusion qui fait leur histoire particulière.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient bien sûr demain à la même heure sur Europe 1. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire tous les après-midi sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Vous avez une sœur, non ?
Oui,
oui. Est-ce qu'elle est plus célèbre que vous ?
Je ne suis pas très célèbre, mais vous elle non plus, je crois.
Vous êtes plus célèbre que votre... Elle vit dans votre ombre, Mélanie, et ça c'est moche.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on va parler des sœurs plus célèbres. Marie-Sophie en Bavière, par exemple, oui. Eh ben, elle a été éclipsée par sa sœur Élisabeth d'Autriche, l'impératrice Sissi. Oui. Pauline Napoléon, bah, elle aurait pu avoir un grand destin, mais non, il y avait son frère Napoléon qui l'a empêchée de faire ce qu'elle voulait. Et puis alors vous allez trouver une sœur qui a été éclipsée par sa sœur.
Ben oui, c'est Pippa Middleton, la sœur de Kate.
Oh, bah, elle est connue un petit peu quand même.
Moi,
je me rappelle de ses fesses.
Connaît vue de dos.
C'est ça.
Elle est très belle vue de dos, me disait Stéphane. Et Stéphane vous nous livrera un scoop.
Oui.
C'est un faux cul. Je n'en dis pas plus, restez
avec
nous.
Alors eux aussi, ils sont comme des frères, alors on va rester bien sûr à l'écoute. Et vous aussi, restez bien sûr Europe 1.